Gloire à Dieu, très content de vous retrouver ce matin dans la présence de notre Dieu. Merci à nos bien-aimés qui ce matin eh bien, ont dirigé ce temps de louange et vous ont permis de eh bien, louer le Seigneur ce matin. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais partager encore avec vous sur le sujet de la grâce de Dieu. Je crois que c'est important de parler de ce sujet parce que, d'abord, comme le disait Charles Spurgeon, la grâce aux mille facettes, c'est un sujet inépuisable, intarissable. La parole de Dieu dit qu'elle est infinie, cette grâce merveilleuse dans laquelle nous vivons chaque jour. Je souhaite parler d'elle régulièrement car, en fait, elle nous maintient dans la joie, dans le souvenir de ce que Jésus a accompli pour nous, dans une liberté et en particulier dans les temps difficiles, elle est sans doute une source d'encouragement pour notre cœur, pour notre vie morale et personnelle. Quand on lit la parole de Dieu, on voit la grâce du Seigneur partout. À pratiquement chaque page de l'écriture de la Bible, la grâce de Dieu est présente. Déjà dès le début de la parole de Dieu, lorsque Adam et Ève ont chuté, sont tombés dans la désobéissance, ont cédé à la tentation, tout de suite la Bible dit que Dieu va venir à leur rencontre et puisque la relation a été brisé. L'Écriture dit qu'il s'était fait une feuille de figuier. Ça montre là les œuvres religieuses, les efforts personnels pour essayer de se justifier devant Dieu. Mais la Bible dit que Dieu va les couvrir d'un vêtement de peau et pour cela, il va devoir eh bien, sacrifier un animal. Et on a déjà là eh bien, finalement l'œuvre de la grâce. Et puis à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, savez-vous quelle est la dernière parole de Dieu? Comment se conclut la Sainte Bible, la parole de Dieu? Il est dit, Apocalypse 22, verset 21, le dernier verset de l'Écriture, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Donc la parole de Dieu nous montre que la grâce est là au commencement de l'humanité, mais elle est là aussi à la fin, parce que tout est toujours l'œuvre de la grâce de Dieu pour notre vie. Cette grâce que nous vivons ou de laquelle nous sommes bénéficiaires, la Bible dit que c'est la même grâce que tous ceux qui nous ont précédés ont expérimenté. Par exemple, l'apôtre Paul dira ceci dans Philippiens 1, verset 7, « Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. » Vous savez, l'apôtre Paul était un homme très religieux. Paul n'était pas finalement un mécréant, un sans-Dieu. Paul était religieux, était même un extrémiste religieux. Et on pourrait dire, comme le livre d'Habacuc le disait, « Sa force à lui, voilà son Dieu ». C'est quelqu'un qui faisait sans doute tous ses efforts pour plaire à Dieu. Et c'est sans doute la raison pour laquelle eh bien, il s'en prenait aux chrétiens parce qu'il jugeait qu'ils étaient dans l'erreur, bien entendu. Et la Bible dit eh bien, que cet homme un jour va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Et là, il va passer des ténèbres à la lumière puisque il va rencontrer Jésus, le Fils de Dieu. Il était plongé dans les ténèbres de sa religion. Et l'Écriture dit qu'il va dire « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et la lumière va se faire. Jésus va lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et à partir de ce moment-là où il va découvrir Christ, le chemin, la vérité et la vie, à partir de ce moment-là, il va devenir l'ambassadeur, je dirais, de la grâce de Dieu. Il va devenir cet apôtre de la grâce, rempli d'amour, rempli de tendresse, rempli de bienveillance. Il devra, à bien des égards aussi, exercer la grâce et le pardon. Et il la prêchera, comme il dit, la parole de la grâce. Cette grâce, bien-aimée, elle est éminente. Elle est suffisante, elle est permanente. Connaissez ce beau cantique qui dit de la croix, la grâce coule. Je ne sais pas dans quel état donc moral, spirituel vous pouvez être ce matin, mais ce que je sais, c'est que la grâce de Dieu est capable de nous rejoindre. Hier, c'était le printemps. Le printemps, c'est toujours la revanche de la vie sur la mort. Le printemps, c'est la revanche de ce Dieu d'amour sur tout le péché qui est bien a sali l'humanité. Vous savez, la croix et la résurrection, c'est bien entendu l'œuvre de la grâce de notre Dieu. Alors la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors je ne sais pas si vous êtes en Jésus-Christ. La clé, c'est juste cela. La clé, c'est d'être en Jésus-Christ. Il faut avoir rencontré le Seigneur. Il suffit simplement de croire en lui, de vivre pour lui, de recevoir son message, et alors nous sommes introduits, la Bible nous dit, dans le royaume du Fils de son amour. Les chrétiens ne sont plus des gens abattus, découragés, vivant dans les ténèbres. Non, absolument pas. La Bible dit, c'est Paul qui le dira dans les Éphésiens, à ceux qui sont sauvés par la grâce, que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes dans une position victorieuse. Nous avons de la hauteur sur les événements, sur les circonstances. Nous ne sommes plus tributaires si nous vivons dans la grâce merveilleuse de notre Dieu. Et comme je le disais les semaines passées, lorsque nous vivons dans la grâce, nous ne sommes plus là à accuser les bien-aimés qui tombent. Vous savez, l'Église n'est pas un lieu pour se juger, mais c'est un lieu de restauration, un lieu de bénédiction où tous ceux qui viennent, qui sont chargés, qui sont malmenés par le diable, qui ont des addictions, qui ont des difficultés dans leur vie, tous ceux qui viennent dans la maison de Dieu devraient pouvoir, comme l'hôtellerie, eh bien, du bon samaritain, devraient pouvoir recevoir là des soins pour leur âme et pour leur vie. Amen. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire amen. Si vous avez bénéficié de la grâce de Dieu dans votre cœur et si vous en bénéficiez encore, eh bien, je vous encourage à dire amen et à célébrer notre Dieu et notre Seigneur. Alléluia. J'aimerais ne pas être trop long car je sais ce que c'est que de suivre sur Internet en live. J'aimerais vous proposer quelques bénédictions qui se rattachent à la grâce de Dieu. Premièrement, je dirais que la grâce de Dieu, c'est une source de provision intarissable. Lisons ensemble dans Hébreux chapitre 4 et au verset 16. Il est dit ceci, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous pouvons, bien aimés, chaque jour nous approcher du trône de la grâce, non pas en tremblant, mais avec assurance, parce que le Seigneur est là dans notre vie, il est sur ce trône, il est ce trône occupé, nous dit le livre de l'Apocalypse, et nous pouvons ainsi eh bien, jouir chaque jour d'un secours divin dans tous nos besoins, pour être secourus dans tous nos besoins. Vous savez, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Et la Bible dit que s'il nous a donné Jésus, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas tout par-dessus ? Il nous a donné la croix, il nous a donné son Fils, il nous a donné son sang. S'il nous a donné cela, il peut, en revanche, nous donner bien au-delà, et bien pour notre bonheur. Le Seigneur est capable de pourvoir à tous nos besoins. Par exemple, il est capable de pourvoir à nos besoins affectifs. Nous ne sommes pas que des êtres spirituels. La Bible dit que nous avons un esprit, une âme et un corps. Notre esprit est en relation avec Dieu, mais nous avons une âme, nous avons des besoins affectifs. On a besoin d'amour, on a besoin de paix, on a besoin de joie. Et toutes ces choses-là, le Seigneur est capable eh bien, de les satisfaire. Le Seigneur est capable de nous donner, de réchauffer notre cœur, d'avoir un cœur qui soit heureux, plein de joie. Il y a tellement de gens qui sont tristes, découragés, qui manquent eh bien, de bien-être affectif. Mais voyez Jésus. Je suis étonné de cela. Jésus est à la croix. Il est en train de donner sa vie pour l'humanité. Nous parlons de la grâce de Dieu. Et là, alors qu'il est en train de livrer sa vie sur la croix, l'Écriture nous dit qu'il va voir sa mère et Jean qui étaient là près de la croix. Ils étaient tout près de lui. Jean 19, verset 25. Près de la croix se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Verset 26. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qui l'aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Il faut comprendre Marie à ce moment-là. Elle vit un déchirement, elle vit une souffrance horrible. Sans doute que la prophétie du vieux Siméon s'accomplit. Une épée te transpercera l'âme. Elle est en train à ce moment-là de souffrir intérieurement, de voir son fils bien-aimé être sur une croix, pendu comme un malfaiteur, lui qui n'a cessé de faire du bien. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, Jésus va prendre le temps de s'occuper de sa maman. Il va lui donner un autre fils, Jean, un fils adoptif, si vous voulez. Et Jean va ainsi s'occuper d'elle. Il va ainsi pourvoir à son besoin, non seulement affectif, mais on sait aussi qu'à l'époque, il semblerait que Marie avait déjà perdu Joseph, le fils adoptif, le père adoptif de Jésus. Et sans doute que Marie allait connaître la précarité. Alors Jésus s'occupe d'elle, non seulement sur le plan affectif, mais aussi sur le plan matériel. Notre Seigneur est prévoyant, il est bon, il est généreux, alléluia, et il est capable de pourvoir à tous nos besoins, nous dit la parole de Dieu, selon sa richesse et avec gloire. Vous savez, Dieu, dans sa grâce, quand on s'approche du trône de la grâce, il peut pourvoir à nos besoins et il peut le faire, je dirais, de manière étonnante. Quand on lit les Écritures, on se rend compte que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, n'ont jamais, jamais manqué de rien. Ce fut mon expérience, personnellement. Lorsque j'ai commencé dans l'œuvre de Dieu, que je suis parti à l'école biblique, et que j'ai dit à mes parents que j'allais devenir pasteur, ça a été un choc pour mes parents, parce qu'ils s'attendaient d'abord pas forcément à ce que je devienne pasteur, mais le souci de mes parents, qui n'étaient pas chrétiens à l'époque, était de quoi allais-je vivre. Eh bien, je peux vous garantir, je peux vous assurer que dès l'instant où j'ai confié ma vie, mon destin au Seigneur, non seulement il a pourvu à mes besoins spirituels, affectif, parce que quand on quitte les nôtres, le Seigneur nous donne, nous dit l'Écriture, des frères, des sœurs, des amis, on retrouve une famille, mais je peux vous assurer aussi que je n'ai jamais manqué de rien sur le plan matériel. De telle sorte que même parfois, je dois faire du régime pour ne pas prendre d'embonpoint, mais parce que quand on fait confiance au Seigneur, quand on exerce notre foi, même dans les domaines matériels du moment présent, le Seigneur est capable de nous bénir. La seule chose qu'il faut faire, dit le Seigneur Jésus, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus parlait ici du manger, du boire, des vêtements, des choses matérielles, des choses d'en bas. Dieu peut pourvoir et il peut nous surprendre ce faisant. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Élie le prophète qui se tenait devant Dieu, qui serait un prophète remarquable. Et on voit qu'à chaque saison de sa vie, Élie n'a jamais manqué de rien. Ce fut les corbeaux qui ont pris soin de lui alors qu'il était au bord du torrent de Kérit. Lorsque celui-ci s'est asséché, il est allé chez une veuve qui l'a nourri, qui a pris soin de lui. Et ainsi, Élie a toujours expérimenté la grâce et le secours de Dieu. Même lorsque celui-ci fut découragé, seul dans le désert, la Bible dit que Dieu va lui envoyer un gâteau merveilleux qui va lui donner des des forces pour qu'ils puissent continuer le chemin. Donc le Seigneur, par sa grâce, alléluia, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le Seigneur pourvoit à tous nos besoins et on peut dire amen selon sa richesse et avec gloire. C'est l'expérience de milliers de chrétiens. Si aujourd'hui vous êtes dans le besoin, je vous encourage à mettre Dieu à l'épreuve. Nous sommes autorisés à le faire dans ce domaine et Dieu dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Nous sommes l'Église ciel ouvert et s'il y a bien un domaine parmi tant d'autres dans lequel je peux rendre gloire à Dieu, c'est la façon merveilleuse dont Dieu a pourvu pour l'Église, pour nos vies sur le plan matériel. En fait, quand on s'occupe de lui, il s'occupe de nous. Retenez bien cela, quand on s'occupe de Dieu et qu'on s'occupe de ses affaires, Dieu s'occupe de nous. Ne cherchons pas les choses d'en bas, ne cherchons pas les choses matérielles, mais si nous cherchons les choses d'en haut, Dieu s'occupera eh bien, de nous bénir dans ces domaines naturels. Que le peuple de Dieu dise amen encore. La grâce de Dieu est encore une source de non seulement de provision, mais de protection. Nous vivons dans un monde dangereux. Je partageais hier avec un frère pasteur qui est un de mes pères spirituels avec qui je me suis converti et avec qui j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, qui a eu un accident. Il avait du reste été prévenu, il prêchait à l'église de Toulouse, je parle ici du pasteur Guy Galifot, sur les dons spirituels et un frère qui était avec lui avait reçu dans son cœur eh bien que monsieur Galifot allait vivre, expérimenter un accident et il a ainsi prié pour lui. Quelques jours après, alors qu'il aidait son beau-père à faire quelques bricoles dans le jardin avec un tracteur et tout cela, son pied accidentellement s'est pris dans un broyeur. Sa chaussure a été complètement déchiquetée. Et certains doigts de pied ont été cassés. Un de ses pieds, le gros orteil gauche, a dû être amputé. Mais l'hôpital rendra témoignage que c'est une grâce. Car dans la plupart de ces cas-là, il fallait amputer, il faut couper soit le pied, soit la jambe, et Dieu l'a vraiment, vraiment protégé. Et il est bien, il est debout, et eh bien, il suit des soins, bien entendu, mais il me disait combien Dieu l'a protégé, combien Dieu l'a gardé. Nous vivons donc dans un monde compliqué, un monde hostile, où il y a les attaques du diable, il y a les circonstances de la vie qui sont sans cesse là, essayer de nous nuire et nous avons besoin de protection pour évoluer dans cette vie sereinement. Et le psaume chapitre 5 verset 13 dit ceci, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Je me rappelle du témoignage de ce pasteur qui vivait aussi une période d'attaque particulière et il a eu fait un rêve, un songe et Dieu lui a montré en fait que les ennemis étaient là, c'était comme une période de guerre et puis il était dans une maison, une pièce et il raconte que pendant que la guerre était là, les ennemis sont rentrés dans la maison, il était là debout devant eux et puis les ennemis regardaient et ne le voyaient pas. Ne le percevait pas. Et Dieu lui a dit, « Eh bien, je te rends invisible pour ton ennemi. » La grâce, c'est ce que je crois, ce qu'elle fait pour notre vie. L'ennemi aimerait bien nous nuire. Les épreuves de la vie aimeraient bien nous détruire, nous anéantir. Mais je crois que tant et aussi longtemps que nous demeurons sous la protection du Très-Haut, sous la protection de Dieu, nous serons protégés et nous serons invisibles aux yeux de l'ennemi. Et je crois même qu'un poisson, il faudrait vérifier cela, un poisson dans les océans a la capacité par sa nature, eh bien, il est comme invisible, il évolue de façon invisible dans les océans, de telle sorte que les prédateurs ne peuvent pas l'atteindre. Quand nous sommes sous le sang de Jésus, eh bien l'ennemi ne peut pas nous nuire. Souvenons-nous, frères et sœurs, des Hébreux, lorsque l'ange exterminateur est entré dans le pays, l'Écriture dit qu'il ne put entrer là où il y avait le sang. Il y avait la protection. Notre protection ne repose pas sur notre bonne volonté ou parce qu'on a fait ceci ou parce qu'on a fait cela. La protection de Dieu sur notre vie provient de sa grâce, du fait que nous nous confions chaque jour uniquement dans l'œuvre de la croix. La croix, c'est notre protection. Notre protection contre les attaques féroces, farouches de l'adversaire. Mais il ne peut pas nous toucher. Il peut parfois, eh bien, nous effrayer un petit peu. Vous savez, la Bible dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et il semblerait que le rugissement d'un lion s'entende à plus de 8 kilomètres. Et ça a de quoi faire trembler. Mais il ne peut nous toucher, il ne peut nous atteindre, parce que la grâce de Dieu est là sur notre vie. La protection de Dieu est incessante, la protection de Dieu est infaillible, et la protection de Dieu est indispensable et efficace. Nous n'avons rien à craindre tant et aussi longtemps que nous demeurons à l'abri du Très-Haut, sous les ailes du Seigneur. Le psaume 91, verset 5, dit ceci, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Et je dis « Amen ». Le Seigneur donc est le Dieu qui nous protège par sa grâce. Par sa grâce, il pourvoit à tous nos besoins. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. La grâce de Dieu est source d'intimité et de communion. Il y a un verset qui dit « Tu me rempliras de joie par ta présence ». Rien n'est plus réconfortant, rien n'est plus satisfaisant que la grâce de Dieu qui nous permet de vivre la communion, l'intimité, le cœur à cœur avec le Seigneur. Un petit peu comme Jean, dans Jean 13, 23, la Bible dit « Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus ». Voyez, Jésus est véritablement l'image du Père, l'empreinte du Père. Il est le Dieu accessible qui désire que nous venions près de lui et que nous reposions sur son sein, que nous ayons avec lui une véritable communion par sa parole, dans sa présence, par son esprit. Le Seigneur a toujours cherché dans toutes les générations, et ce n'est pas une question d'âge, il a toujours cherché des hommes et des femmes qui vivent, qui ont soif de vivre avec lui une intimité, une communion. Je pense à Samuel. La Bible dit que c'était une période où les visions étaient rares en ce temps-là. Mais il y avait un jeune homme, un enfant même, Samuel, qui demeurait dans la maison de l'Éternel. Et l'Écriture dit que le Seigneur se révélait à lui, s'est révélé à lui par sa parole. Le Seigneur désire que nous ayons une communion, une intimité avec lui. 2 Corinthiens 13, verset 13 dit ceci, que la grâce du Seigneur Jésus, parce que tout commence là, la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Je ne sais pas où vous en êtes sur le plan de votre communion avec Dieu, sur le plan de l'intimité avec Dieu, du cœur à cœur avec Dieu. Mais ce que je sais, c'est que la grâce de Dieu désire nous installer dans une communion permanente, profonde, intime, de qualité avec le Seigneur. Et vous savez, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre passé, le Seigneur désire que nous communions avec lui. Un des symboles de la communion, c'est la table dans les Écritures. Et je pense ici, en terminant, parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps, à Méphibosheth. C'est un garçon, nous dit l'Écriture, qui a été laissé tomber par sa nourrice à l'âge de 5 ans. Il est tombé par terre lorsqu'elle a appris la mort de Saül. Elle est partie précipitamment et cet enfant a fait une chute. Et une chute qui le suivra jusqu'à la fin de sa vie. Méphibosheth sera handicapé. Et puis, comme il était le fils de Jonathan et le petit-fils de Saül, l'Écriture nous dit que, eh bien, malheureusement, il va devoir vivre caché dans la maison de Makir, la maison du vendu, à Lodebar, une région désertique, signifiant littéralement pas de pâture. Il vivait comme un reclus, un espèce de lépreux, de fugitif, caché, handicapé. Il vivait dans la misère. Et la Bible dit qu'un jour, David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, a eu à cœur, à cause de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan, de faire venir ce Mephibosheth. Et l'Écriture dit qu'il voulait lui faire du bien. Quand Mephibosheth s'est retrouvé dans la présence de David, il se retrouvera eh bien, comme un homme craintif, misérable. Il dira « Qu'est ton serviteur ?» de Samuel 9, verset 8, « Pour que tu regardes un chien mort tel que moi. » Il se sentait indigne d'être dans la présence de David. Mais David va lui parler avec bienveillance. Et David va lui rendre toutes les terres de sa famille. Mais bien plus, David va l'inviter à venir chaque jour manger à la table du roi. Il va, si vous voulez, l'introduire dans la table du roi, à la table du roi et dans son intimité, partageant ses conversations, partageant ses projets, partageant son quotidien. Et ainsi, Mephibosheth va être hissé de la poussière à la splendeur. Il va vivre un renouveau. Sa vie va totalement changer. Mais ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Dieu ne désire pas nous voir vivre misérables, mais Dieu désire nous voir vivre dans l'abondance, mais aussi dans son intimité, dans sa communion au quotidien. David écrira, tu dresses devant moi une table, je dirais, bien garnie. C'est la table de sa présence, la table de sa communion. Jésus disait, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La grâce de Dieu est éminente, frères et sœurs. Je termine avec ce verset 2 Corinthiens 9, 14. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Dieu nous a fait une grâce éminente, littéralement hyperbalo, supérieure, infinie, qui surpasse nos attentes. Mephibosheth ne s'attendait certainement pas à ce destin glorieux à cause de son passé misérable, à cause de son passif terrible et ténébreux. Mais Dieu va faire au-delà de ses attentes et de ses espérances. Et cette grâce signifie même, la grâce éminente, c'est une grâce qui transcende notre passé, qui transcende notre quotidien. Vous faites peut-être face aussi à un quotidien pénible, marqué par les épreuves. La grâce de Dieu est éminente et elle transcende. L'apôtre Paul dira même qu'elle est suffisante. Elle nous donne des capacités pour transcender nos faiblesses. Nous sommes faibles, mais Dieu est fort. Nous pouvons être forts par sa grâce, par sa puissance, par son autorité. Nous pouvons dire Amen, Amen. La grâce de Dieu désire nous introduire dans la communion et la communication du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là et chaque jour, par la grâce de Dieu, il désire nous parler, il désire nous révéler ses plans, il désire nous conduire dans toute la vérité. Alors, frères et sœurs, ne pouvons-nous pas ce matin louer le Seigneur pour la grâce de sa provision, la grâce de sa protection, la grâce de sa communion permanente, la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. Merci pour la grâce qui coule dans nos vies. Seigneur, je prie peut-être pour quelqu'un ce matin qui nous suit sur le net et qui vit à la sueur de son front, qui vit sa foi par ses propres forces. Seigneur, alors que ta grâce est là comme un bouclier, ta grâce est là entièrement suffisante, éminente pour nous extirper de nos Lodebar, pour nous extirper de nos misères et nous hisser jusqu'à la droite joie du Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux prier aussi, peut-être pour des bien-aimés, car il y en a de plus en plus, hélas, dans notre pays, qui passent par la précarité matérielle. Je te prie ce matin, afin que tu pourvoies, que tu les bénisses. Seigneur, nous n'avons jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Seigneur, je te prie de pourvoir, de bénir de façon surprenante, de façon glorieuse. Ô Seigneur, combien nous sommes heureux de bénéficier de cette grâce divine, de bénéficier de cet amour divin. Merci Seigneur pour la croix, parce que la croix nous libère, la croix nous affranchit et nous sommes participants de cette grâce, la même que celle de Paul et de tous les disciples qui nous ont précédés. Seigneur, je prie ce matin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous tous, que nous puissions vivre sous le bouclier, sous la protection de Dieu, et que toutes les attaques dans les ténèbres, toutes les attaques ténébreuses, que ce soit par la langue, que ce soit d'une autre manière, Seigneur, tu les brises au nom de Jésus et tu bénis ton peuple, tu fortifies ton peuple, tu encourages ton peuple. Dans le nom tout-puissant de notre Dieu, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez encouragés par la parole de Dieu. Soyez fortifiés par le Seigneur. Il est là présent au milieu de nous. Et il vous bénit ce matin. Faites-lui confiance, il est avec vous. Je vous dis à bientôt, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous.